DW. L'arbre à palabre.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de la discussion sous l'arbre à palabre. De l'argent frais investi dans des secteurs stratégiques comme l'eau, la santé, l'énergie, voilà qui force le détour malgré l'actualité politique quelque peu débordante sur le continent. Mais difficile d'intéresser les gens à la politique s'ils n'ont pas le minimum vital, et c'est de cela qu'il semble s'agir avec les investissements qui commencent à pleuvoir. Le Compact with Africa est un exemple d'initiative d'investissement dont nous parlerons dans la vingtaine de minutes qui arrivent. Le Compact with Africa, une idée de la présidence allemande du G20 qui, en un an, a provoqué quelques changements, du moins dans le premier groupe d'adhérents de 11 pays africains. Mais il y a des inquiétudes. Les investisseurs étrangers viennent pour leurs intérêts. Comment profitent réellement les populations et qu'en est-il des investisseurs locaux? Question à nos invités. Robert Ducey, ministre des Affaires étrangères du Togo. Vous étiez présent à Berlin le 30 octobre 2018 aux côtés du président togolais à l'occasion de la conférence G20 Afrique sur l'investissement. Monsieur Ducey, bonjour.
Oui, bonjour.
Moustapha Kassé, président du think tank École de Dakar, doyen honoraire de la faculté des sciences économiques à l'université Cheikh Anta Diop. Monsieur Kassé, bonjour.
Bonjour.
Et Ingo Badorek, secrétaire général de la Deutsche Afrika Stiftung, la fondation allemande pour les relations entre l'Allemagne et l'Afrique. Monsieur Badorek, bonjour.
Bonjour.
Merci à tous d'être présents dans cette émission. Merci également à nos auditeurs. Fréjus Kenom au micro pour l'animation.
DW.
Ma première question à M. Ingo Badorek, Compact with Africa. Qu'est-ce qui a changé en un an d'exécution de cette initiative d'investissement?
C'est un peu difficile à dire parce que vous savez que le Compact with Africa cible vraiment le cadre légal, la réforme du secteur finance public, le cadre macroéconomique. Ça veut dire même si ça, les réformes ont déjà commencé, ça va prendre quelques temps. Donc, il faut avoir un peu de patience avant qu'on puisse voir vraiment les résultats de cette initiative.
Alors, le Togo fait partie des 11 pays qui sont élus à cette initiative, en tout cas pour l'instant. Robert Ducey, ministre des Affaires étrangères du Togo, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce que le Togo a pu faire comme réforme en un an pour pouvoir attirer les investisseurs?
Non, mais je crois que d'abord, il faut saluer l'initiative de Compact with Africa parce que c'est un programme, hein, comme vient de le dire notre collègue tout à l'heure, dont l'un des objectifs est de mobiliser des financements internationaux en faveur des programmes de développement sur le continent. Quand vous prenez le cas du Togo, nous sommes devenus cette année un membre du Compact Vivre Africa. D'énormes réformes, surtout sur le plan économique, ont été faites, ce qui a permis au Togo de devenir membre. Mais au-delà d'être membre, je crois que c'est une initiative qui a reçu pour le moment le bénéfice de tout ce qui peut changer le cadre de vie de nos populations. Donc le Togo, par exemple, bénéficie de ce programme, comme je viens de le dire, grâce aux réformes effectuées par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires. Donc c'est ce que nous avions fait au Togo, nous continuerons à faire pour bénéficier des bénéfices de ce programme, comme certains pays qui en ont déjà bénéficié, comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, par exemple.
Ingo Badorek, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelques deux, trois choses qu'un pays doit faire comme réforme pour pouvoir intégrer ce groupe d'investissement?
En fait, si un pays veut qualifier comme membre de l'initiative Compact with Africa, il doit d'abord montrer un intérêt. Et ça, c'est un peu le défi aussi avec la conception de cette initiative, parce que on voit bien que quelques pays qui ont une importance pour les affaires régionaux ou pour les investissements étrangers sont déjà inclus. Mais il y a encore quelques joueurs qui sont très importants, surtout pour les investissements internationaux, qui ne sont pas encore inclus dans cette initiative. Je parle notamment de Nigeria, je parle notamment de Kenya. Et par exemple, ces deux pays n'ont pas encore montré une volonté de participer au Compact. Et je crois que, comme le ministre des Affaires étrangères a déjà dit, une volonté, c'est un côté de participer, mais l'autre côté, c'est d'être vraiment prête à implémenter des réformes. Et il y a des pays comme le Togo ou le Sénégal qui ont montré une volonté extraordinaire d'implémenter ces réformes-là. Mmh. Il faut en féliciter. Mais pour avoir plus d'effet, il faut vraiment agrandir cette initiative.
Voilà, ben, agrandir cette initiative, ça c'est un autre aspect qui fait l'objet de critiques. Mais quand on parle de réforme, on a souvent entendu parler de réforme sur le plan de l'assainissement du milieu des affaires. Il faut rassurer les investisseurs. Est-ce que Moustapha Kassé, cette initiative d'investissement qui n'est pas la seule en matière d'investissement en Afrique actuellement, en tout cas, est-ce que le Compact with Africa vous rassure, monsieur Moustapha Kassé?
Ah oui, merci bien. Je crois que tous nos pays, le Togo y compris, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ont d'importants déficits de ressources, d'importants déficits d'épargne, surtout que ça soit épargne publique ou épargne privée. À partir de ce moment, bien entendu, l'investissement est attendu précisément par justement les investissements directs étrangers, c'est-à-dire les transferts de capitaux provenant de l'extérieur. Mais si nous considérons le phénomène globalement, c'est que leur impact par rapport au PIB reste extrêmement faible. Il y a des pays qui sont principalement intéressés. Si nous regardons le dernier rapport de la CNUSED de 2016, vous y voyez effectivement que les pays qui reçoivent les investissements directs étrangers sont généralement les pays pétroliers, en général. Hein, le Nigeria, les pays d'Afrique centrale, de manière générale. Donc, mais même en regardant dans notre environnement sous-régional, on s'aperçoit que les investissements vont directement dans... au niveau de ces pays producteurs de pétrole. Bien, peut-être que cette donne va changer. Je pense que si les nouveaux cadres permettent ce changement-là de s'opérer et d'aller vers peut-être des pays qui sont des pays manifestant un certain dynamisme, mais sans pétrole, le Togo en est un exemple, ou bien le Sénégal, en Afrique francophone, tous mettre en place des institutions publiques qui permettent de promouvoir l'investissement direct étranger, quelle qu'en soit la forme et quelle qu'en soit l'origine.
Oui, parce que l'objectif, c'est de, si vous permettez, c'est de créer des emplois et puis soulager la situation des populations toujours plongées dans la misère. Mais une question que suscite votre intervention est...
Je vais y ajouter, pas seulement ça. Il y a les transferts de technologie.
Bien sûr, on va en parler tout à l'heure, si vous permettez, Monsieur Kassé.
Oui.
Si vous permettez, on va y revenir tout à l'heure. Mais en attendant, Ingo Badorek, votre observation, donc c'est qu'il y a certains pays qui manquent à ce groupe de Compact with Africa. Il n'y a pas le Nigeria pour l'instant, il n'y a pas le Kenya. Ce qui attire la critique que cette initiative ne s'intéresse finalement qu'aux pays qui se portent relativement mieux économiquement sur le continent.
Bonne chose. C'est une très bonne chose.
La question était d'abord adressée à M. Badorek. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Badorek?
Oui, je veux un peu réagir. C'est ce que notre collègue de Sénégal a dit, qu'on peut constater qu'en fait, l'investissement allemand ne se cible pas seulement sur les pays qui sont le producteur de pétrole. Mmh. Tout d'abord, c'est l'Afrique du Sud, mais c'est aussi l'Égypte, Tunisie, Maroc, et Kenya, qui sont les pays les plus importants pour l'investissement allemand. Et on est, par rapport à la France, un joueur un peu plus petit, mais quand même, on a plus que 2500 entreprises allemandes qui sont engagées en Afrique, qui créent l'emploi pour 200 000 employés en Afrique. Mais il faut aussi constater qu'il y a quand même une certaine logique qui n'est pas tout à fait prise en compte pour les investisseurs allemands, et je peux dire ça avec une certaine autorité parce que j'étais en charge de la chambre de commerce Kenya-Allemande à Nairobi. J'ai constaté que c'est tout d'abord, les gens, ils veulent d'abord vendre leurs produits. Deuxième étape, ils font une distribution locale, et troisième étape, c'est en fait une usine et la production locale, et on voit ça dans les pays comme l'Afrique du Sud, où les entrepreneurs allemands sont très forts, ils créent plus que 100 000 emplois, mais il faut aussi prendre en compte que ce n'est pas réaliste que les gens viennent avec... tout de suite avec une production locale avec des usines.
Oui, donc les petites et moyennes entreprises dans un premier temps.
Oui, par rapport aussi aux autres pays, notre économie allemande, la plupart des entreprises, ce sont les PMU. Mmh. Ce ne sont pas comme en France les grosses entreprises qui poussent le développement, mais ce sont les petites et moyennes entreprises en Allemagne qui sont la base de la croissance économique en Allemagne et c'est ce qu'on doit encourager d'investir plus en Afrique.
Mais n'empêche, Robert Ducey, par exemple, pour le cas du Togo, on a vu qu'il y a une grande entreprise comme Siemens, une entreprise allemande, qui a annoncé un contrat de construction de turbines à gaz au Togo. Siemens n'est pas une petite entreprise, Monsieur Ducey.
Non, bien sûr que ce n'est pas une petite entreprise, mais comme vient de le dire tout à l'heure M. Cassé, vous savez, ce qui est important pour nous, c'est d'attirer les investissements directs étrangers, le fameux IDE dont nous parlons tout le temps. Donc, une entreprise Siemens, qui est une entreprise à renommée mondiale, investir au Togo, mais ici ce n'est pas un investissement, nous avions quand même, c'est une turbine que nous achetons, ces emails, nous pensons d'abord que c'est une bonne chose pour cette société. Mais au-delà de ça, ce qui est important pour nous sur le continent africain et tous les pays membres du Compact UF Africa, le Sénégal, le Togo, le Ghana, le Maroc, la Tunisie, etc., c'est que nous voulons qu'il y ait beaucoup d'investissements dans chacun de nos pays. Et ce qu'il faut, aujourd'hui nous parlons du Compact UF Africa, évidemment, c'est nous attirons vers nos investissements allemands. Et en retour, bien sûr, parce que les entrepreneurs allemands viendront investir en Afrique, il y a aussi un retour chez eux, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils gagnent parce qu'ils investissent, c'est quand même du business. Mmh. Mais ce que nous voulons, c'est surtout que ces investissements, non seulement puissent créer de l'emploi dans nos pays, et également créer des conditions favorables pour le développement de nos pays, pour l'amélioration des conditions de vie de chacune de nos populations. Ouais. Donc, nous, notre vision sur le continent d'un pays à un autre, c'est surtout que ces investissements soient utiles pour assurer le développement de nos pays. On peut même aller même plus loin que les investissements allemands, mais à prendre tout investissement dès lors qu'il doit soutenir les économies africaines.
Oui. Monsieur Ducey, que pensez-vous lorsque Monsieur Badorek déplore, par exemple, l'absence pour l'instant de pays comme le Nigeria, qui, jusqu'à nouvel ordre, fait partie des gros bonnets économiques du continent africain avec l'Afrique du Sud?
Mais moi, je crois que la vision de la présidence allemande, d'ailleurs, est de continuer à intéresser les pays africains par l'initiative Compact UF Africa. Donc, pour le moment, le Nigeria n'est pas membre, mais rien n'empêche que le Nigeria soit membre du Compact UF Africa prochainement. Et l'Angola, certains pays ou certaines économies nommées économies fortes sur le continent, moi, je crois que c'est des possibilités qui arriveront d'un moment à l'autre. Donc, je suis optimiste que quand le Nigeria sera intéressé ou quand les conditions seront remplies pour le Nigeria et le Kenya ou l'Angola, etc., pourront faire partie du Compact UF Africa.
Oui, Ingo Badorek, secrétaire général de la Deutsche Afrika Stiftung, que se passerait-il si un pays comme le Soudan du Sud ou la Somalie se manifestait aujourd'hui pour intégrer ce groupe?
Je ne suis pas politicien. Là, il faut poser la question au gouvernement allemand. Je ne fais pas partie du gouvernement allemand, mais je crois que ces pays ne sont pas encore au niveau de qualification, au niveau de réformes qui sont nécessaires pour qualifier au contrat.
Oui, parce que c'est justement ce qui fait que certains disent que finalement, ce genre d'initiative n'implique que les pays qui sont déjà un peu en bonne santé. Or, on a besoin aussi d'aider les pays qui sont encore à terre, comme les deux que j'ai cités tout à l'heure.
Mais vous saviez que, si vous le permettez, ce qui est important...
Robert Ducey,
ce qui est important ici dans ce programme, c'est la disponibilité des pays, d'abord c'est une base volontaire, à mettre en œuvre des réformes nécessaires afin d'augmenter leur potentiel d'investissement. Donc ces pays que vous venez de citer, le Soudan du Sud par exemple, si un jour ce pays se décidait à mettre en œuvre ces réformes, je crois qu'il n'y a rien qui puisse empêcher ce pays d'être membre du Compact UF Africa. L'essentiel, c'est de faire des réformes, et des réformes importantes, à mon avis.
Moustapha Kassé.
Je voudrais préciser seulement une chose, je suis tout à fait d'accord avec M. le ministre, mais je voudrais préciser une chose, c'est que si nous regardons vraiment la répartition des IDE en Afrique, je ne spécifie pas le cadre du Compact, mais en fait, les investissements se dirigent principalement, ça a été dit, vers le Botswana, vers le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, etc., etc. En réalité, des pays qui font des réformes, parce qu'en Afrique, maintenant, c'est le temps des réformes. Je ne vois pas aujourd'hui un pays qui s'installe durablement dans la non-réforme. Les réformes se mettent partout en place. Mais alors, le problème qui se pose, c'est que les investissements directs ont des logiques d'implantation. Parfois, ces logiques d'implantation ne correspondent pas toujours aux stratégies de développement économique et social. Je prends le cas du Sénégal. Le Sénégal reçoit annuellement entre 300 à 400 millions d'IDE. Si vous regardez le PSE, le plan sénégalais, on compte principalement sur les IDE en réalité pour effectivement atteindre les 7% de croissance. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que de toute façon, en ne comptant que sur les IDE, on risque de négliger les autres apports. Par exemple, je parlais tout à l'heure des transferts de la diaspora, extrêmement important. La diaspora nous transfère annuellement 1,2 milliard, ce qui est supérieur de loin aux investissements privés, aux investissements
directs étrangers. Oui.
Alors, je pense donc qu'il faudrait précisément que les États fassent l'effort d'étudier profondément les impacts que ces idées ont sur leur stratégie de développement économique. Parce qu'il y a quand même il y a des désavantages. Il est tout à fait normal que celui qui met son argent dans un pays veut effectivement un retour d'investissement. Donc, cela va impacter précisément la balance des paiements, premièrement. Deuxièmement, vous allez avoir un autre petit problème. Je dis petit problème, hein, mais en fait, un gros quand même. Vous allez faire des concessions fiscales. L'État, donc, va manquer effectivement de ressources.
Parce que moralité, les budgets sont des budgets largement fiscaux.
Exactement.
En Afrique,
hein. Moralité, c'est effectivement la succession, dans presque la plupart de nos États, des déficits budgétaires. Et plus grave, vous allez avoir encore... justement une certaine compétition sur les dégrèvements fiscaux. C'est-à-dire que si le Togo accorde 3% ou 4%, un autre pays va dire, mais pour attirer les IDE, moi j'accorde 1%. Mmh. Alors, ensuite, et enfin peut-être, il y a cet autre aspect. On dénonce la corruption. La corruption, fondamentalement, est un phénomène externe. Vous parlez de l'Allemagne. Mais l'Allemagne, jusqu'à un certain moment, a accepté, dans les investissements extérieurs, un pourcentage de corruption, parce que, jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis vous disent, nous donnons de l'argent, n'est-ce pas, à des gens, pourvu simplement qu'ils contribuent à l'efficacité des investissements américains. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, la plupart du temps, donc...
Monsieur Kassé, permettez, on va faire circuler la parole, surtout que Monsieur Badorek a un impératif. On va le laisser intervenir pour pouvoir le libérer. Monsieur Badorek, vous êtes là?
Oui, oui.
Voilà, rapidement. D'abord, comment est-ce que vous réagissez aux inquiétudes de Monsieur Kassé? Première question.
Oui, c'est tout d'abord la responsabilité de chaque pays de mettre le cadre en ordre qui est favorable pour leur propre pays. Ce sont les politiciens de leur pays qui restent une exonération fiscale pour les investisseurs étrangers. C'est leur propre responsabilité. À mon avis, et selon mon expérience, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai travaillé en Afrique du Sud où il n'y a pas vraiment un cadre d'exonération des impôts. Aussi pas au Kenya, où j'ai vécu pendant 4 ans. Mmh. Une dernière mot sur la corruption. Les investissements internationaux étrangers ne sont pas responsables pour une augmentation de corruption en Afrique. La corruption en Afrique, à mon avis, selon mon expérience pour les investisseurs allemands, c'est d'abord leur souci le plus grand d'être mis en face avec le phénomène de corruption en Afrique. C'est toujours l'une des raisons principales pourquoi il n'y a pas assez
d'investissements
en Afrique. Et je crois que dans les pays où les autorités africaines le font, comme l'Afrique du Sud, comme le Botswana, comme Kenya, on voit un investissement, une croissance des investissements internationaux. Mmh. Et je ne vois pas vraiment des exonérations des impôts pour les investissements internationaux. En outre, on voit une croissance dans la protection légale qui influence aussi, et c'est pour moi, c'est aussi sous-estimé dans cette discussion, les investissements locaux. Parce qu'un cadre légal favorable aux investissements, ce n'est pas vraiment pour attirer seulement les investissements étrangers, mais surtout aussi de créer un cadre favorable pour les investissements locaux.
Oui, mais on en parlera tout à l'heure, Monsieur Badorek. Une dernière chose avant de vous laisser partir. On parle de G20 Afrique, mais jusqu'ici, ce n'est que l'Allemagne que l'on voit. Qu'en est-il des autres pays du G20?
C'est ça. C'est aussi un malentendu. Les gens pensent que vraiment il s'agit d'un programme de financement public, mais il faut vraiment comprendre. C'est un programme de volonté politique, c'est un programme de soutien politique avec des experts techniques, mais il n'y a pas d'argent là-dedans. Sauf que l'Allemagne a soutenu ce processus avec un montant de à peu près 1 milliard d'euros avec des pays comme la Tunisie, Ghana, Côte d'Ivoire, et maintenant Sénégal, Maroc et Éthiopie vont tous recevoir un peu plus que 100 millions d'euros. Et il faut aussi un peu de financement pour pousser le pays dans la bonne direction. Et là, il faut aussi mettre un peu l'argent dans la main. C'est seulement l'Allemagne qui le fait en ce moment. Et j'espère bien que les autres pays de G20 vont s'associer aussi sur le plan financier.
Très bien. Mais merci, M. Badorek, d'avoir participé à cette émission. On vous laisse à vos autres occupations. Merci quand même de nous avoir consacré ces quelques temps de votre journée. Au revoir. Nous restons sur cette émission avec Robert Ducé. C'est d'ailleurs pratiquement la fin, Robert Ducé. On a parlé de plusieurs choses. On a parlé des investisseurs locaux. Est-ce que vous croyez que les investisseurs locaux togolais qui nous écoutent en ce moment n'ont pas de raison de craindre une concurrence quand des investisseurs étrangers débarquent dans la capitale Lomé?
Enfin, vous avez raison d'une part, mais d'autre part, je crois qu'il ne faut pas prendre la chose comme telle. Mais je voudrais, avant de répondre à votre question, revenir sur l'intervention du professeur Cassé tout à l'heure pour dire qu'il a parfaitement raison. Vous savez, quand nous demandons des investissements directs étrangers, l'un des problèmes que nous avions, c'est que la plupart des entreprises, quand elles arrivent, elles demandent souvent une convention fiscale entre elles, ces entreprises, et chacun de nos gouvernements. Donc, il y a beaucoup de faveurs que nous leur faisons qui a, en vérité, aussi, d'un côté, impute un peu sur le
budget.
Sur notre budget. Et ça, c'est un problème réel. Ça a été relevé par certaines institutions, même qui sont partie prenante du Compact Youth Africa, comme le FMI qui signale.
Il y a aussi le fait que ces pays étrangers ou ces investisseurs, ils ne veulent pas transférer la technologie. On ne veut pas apprendre aux Africains à faire.
Vous avez parfaitement raison. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que je soutenais mon collègue Cassé. Et la réalité aujourd'hui, c'est que nous voulons des investissements directs étrangers. Mais c'est à nous aussi d'être vigilants pour que ces investissements-là puissent réellement soutenir nos économies qui sont faibles. Pour en finir, je voudrais répondre à votre question. Donc, il appartient au secteur privé africain d'investir dans chacun de nos pays
de se rendre plus dynamique
et se rendre plus dynamique. Donc ici, je crois que parfois la concurrence peut les pousser à le faire. Il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers. Nous sommes Africains et nous appartient à nous-mêmes de développer nos pays. Et si le secteur privé est associé au développement économique, c'est ce que nous sommes en train de faire au Togo. Donc le secteur privé est très impliqué aujourd'hui dans ce que nous appelons le PND, le Plan National de Développement, pour chacune de nos économies.
Merci. Merci Robert Ducé. Moustapha Cassé, alors que pensez-vous des propos
Moi, je ne sais pas, mais le ministre a dit l'essentiel. Particulièrement, je note dans son intervention un point qui est le point faible dans nos politiques économiques. L'association du secteur privé national, la plupart du temps, nous ne responsabilisons pas assez le secteur privé. Et d'abord, nous avons là une sorte de concurrence déloyale entre ceux qui ont des moyens et ceux qui veulent faire quelque chose mais qui n'en ont pas les moyens. Alors moi, je viens de publier chez L'Armatan. J'ai dit le secteur privé comme la jambe faible de l'émergence. Comment passer des entrepreneurs à des entreprises? Comme l'a dit le ministre, on ne peut pas attendre l'extérieur pour le faire. quand je regarde aujourd'hui, bon, je prends le Togo, hein, j'aurais pu prendre le Sénégal, j'aurais pu prendre la Côte d'Ivoire.
On a compris que le Togo est votre bon élève.
C'est gentil. Moi, je fréquente le Togo depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Voilà. Et je vois précisément qu'il y avait des temps d'arrêt, mais ça repart. Mais il y a des efforts d'investissement.
Il y a des efforts, voilà. Mais c'est tout à l'avantage du Togo. Hein.
On espère, merci, c'est très gentil, professeur.
Voilà, on espère que d'autres pays vont suivre les traces du Togo. En tout cas, le débat n'est pas terminé. Nous aurons l'occasion, bien sûr, de revenir un peu sur le sujet de l'investissement en Afrique, qui est un vaste sujet. Merci en tout cas, professeur Mustapha Kassé, d'avoir participé à cette discussion. Je rappelle que vous êtes doyen honoraire de la faculté des sciences économiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Robert Ducey, ministre des Affaires étrangères du Togo, merci d'avoir été de la partie. Et nous étions avec Ingo Badorek de la Fondation allemande pour les relations entre l'Allemagne et l'Afrique. Merci à nos auditeurs d'être restés à l'écoute de bout en bout et à la semaine prochaine pour un autre débat sous l'arbre à palabres.